Radio Kapi.
Kapi, le journal, c'est avec Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, les mesures de prévention contre l'épidémie d'Ebola négligées par de nombreux voyageurs qui empruntent l'axe Bunia-Mongualou en Ituri. Pendant ce temps, des cas suspects signalés dans certaines zones de santé du Nord Kivu. Conséquence, les postes frontaliers entre Goma et Gisenyi ont été partiellement fermés depuis ce dimanche matin du côté rwandais. Le narratif génocide est désormais intégré dans les programmes de l'enseignement primaire et secondaire en République démocratique du Congo. Le ministère de l'Éducation nationale apprête déjà un guide national de formation et élabore des outils pédagogiques adaptés. L'invité de ce journal est le conseiller en charge de la citoyenneté et de l'inclusion au sein du ministère de l'Éducation nationale. Godefroy Talaboulou parle de l'intégration du narratif génocide dans les programmes de l'enseignement primaire et secondaire en République démocratique du Congo. Avant de développer ce titre, notez que le gouvernement a commémoré ce dimanche 17 mai à Kinshasa la journée nationale des forces armées de la République démocratique du Congo, organisée au mémorial du soldat congolais au rond-point Forescom. Cette célébration a été marquée par un office œcuménique en mémoire des soldats tombés sur les champs d'honneur, ainsi que des militaires encore engagés sous le drapeau national. Plus de détails avec vous Blaise Ndongala Mayanda.
Placé sous le thème « Ensemble pour la victoire des FARDC », la Journée nationale des forces armées de la RDC a été ponctuée par des messages forts des aumôniers militaires ainsi que des prédications axées sur l'obéissance au commandement et à l'unité nationale. Dans son discours de circonstance, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale a insisté sur la nécessité de renforcer les rôles des FARDC et de la police nationale congolaise afin de garantir la sécurité des populations sur toute l'étendue du territoire national. Guy Kabombo Mwadiamvita.
On ne peut pas sauver un pays, garantir la sécurité de nos concitoyens si l'armée et la police ne sont pas mises au premier banc. Donc c'est une journée très importante.
Ces membres du gouvernement a également plaidé pour l'enseignement des valeurs patriotiques dès le bas âge, estimant que l'amour de la patrie constitue l'un des piliers fondamentaux de la stabilité et de la souveraineté nationale. La journée nationale des FARDC étant tombée un dimanche, son observance officielle est reportée à ce lundi 18 mai sur l'ensemble du territoire national.
Je le disais au sommaire, en Ituri, de nombreux voyageurs qui empruntent l'axe Bunia-Mongualou, deux principaux foyers de l'épidémie d'Ebola, continuent de négliger les mesures de prévention contre cette maladie. Entassés chaque jour dans des camions de transport, plusieurs passagers ne portent ni cache-nez et ne disposent pas de désinfectants. Certains affirment même ne pas croire à l'existence de cette épidémie. Plusieurs sources médicales estiment que cette situation appelle à un renforcement urgent des campagnes de sensibilisation. Des détails avec Isaac Remouyopi.
Chaque matin, près de 20 camions transportant des marchandises et des dizaines de passagers quittent Bunia en direction de Mongualou. À cela s'ajoutent plusieurs camionnettes et véhicules de transport en commun. Dans la plupart des véhicules, les passagers voyagent serrés les uns contre les autres sans respecter les mesures barrières recommandées. Très peu de voyageurs portent un cache-nez ou disposent de désinfectants pour les mains. Certains disent compter uniquement sur la protection divine, tandis que d'autres affirment ne pas croire à l'existence même de cette maladie. L'un d'eux rencontré au parking du marché central de Bunia.
Moi, je ne suis pas certain de l'existence de cette épidémie. J'ai entendu dire qu'Ebola sévit et dans la région, mais je ne sais pas s'il s'agit réellement d'Ebola ou d'une autre maladie. Chacun meurt avec des symptômes différents, donc je ne suis pas convaincu de la maladie qui tue réellement les gens. C'est pourquoi je reste sceptique et je ne porte pas de cache-nez.
Selon plusieurs sources médicales, cette méconnaissance du danger représente un risque majeur pour la propagation de l'épidémie qui aurait déjà causé plus de 80 décès dans la région. Ces sources demandent au gouvernement ainsi qu'aux partenaires de santé de renforcer les campagnes de sensibilisation et d'imposer le respect des mesures barrières aux usagers de la route. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Et parlons virus Ebola encore avec cet appel du gouverneur du Nord Kivu voisin. Il appelle la population au strict respect des mesures barrières pour prévenir la propagation de la maladie qui sévit en Ituri. Cet appel intervient alors que des cas suspects ont été signalés dans certaines zones de santé du Nord Kivu. La conseillère du gouverneur en charge de la santé rappelle ici quelques-unes des mesures barrières à respecter. Priska Kamala Luanda est au micro de Marc Marofimbo.
Vu l'intensité des mouvements et des échanges facilités par des trafics intenses entre les zones touchées et la province du Nord Kivu, la population se trouve extrêmement exposée au risque de cette maladie mortelle. Certains malades suspects en provenance des milieux touchés sont déjà identifiés avec des signes de cette épidémie dans certaines zones de santé dans notre province. Pour ce faire, il nous recommande la stricte observance des mesures barrières ci-après. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Éviter les contacts avec tout malade présentant ou non les signes d'Ebola cités ci-haut. Éviter de se serrer les mains et de se faire des accolades pendant toute la période de l'épidémie. Si un malade, membre de famille, est confirmé positif d'Ebola, faites appel à l'équipe pour décontaminer ou désinfecter la maison.
Effectivement, sur place, au Nord Kivu, les postes frontaliers entre Goma et Gisenyi sont partiellement fermés du côté rwandais depuis ce dimanche tôt le matin. Selon plusieurs sources concordantes, cette décision ferait suite au cas suspect d'Ebola dans la ville de Goma. Ce matin, plusieurs habitants de Gisenyi qui traversent habituellement la frontière ont été stoppés, notamment à la petite barrière. D'autres ont été refoulés au niveau de la grande barrière communément appelée la corniche. À ce stade, aucune communication officielle n'a encore été rendue publique. Bernard Nyangui pour plus de détails.
Sur les deux principaux points de passage, la grande barrière et la petite barrière, seuls les Congolais présents au Rwanda et souhaitant regagner leur pays sont autorisés à entrer, de même que les Rwandais retournant chez eux. En revanche, les mouvements aller-retour entre les deux villes sont suspendus, affirment plusieurs témoins. Du côté de Goma, certaines sources médicales évoquent au moins deux cas suspects détecté dans une structure hospitalière de la place. Juin ce matin, un Congolais résident à Gisenyi affirme que lui et sa famille n'ont pas été autorisés à traverser la petite barrière pour se rendre à leur lieu de culte à Goma. Selon lui, des responsables leur auraient officieusement indiqué qu'il s'agirait d'une mesure temporaire liée à la vigilance accrue après la récente déclaration d'une épidémie de maladie à virus Ebola dans la province de l'Ituri. Une disposition qui s'inscrirait donc dans une démarche préventive de contrôle sanitaire. Notre interlocuteur redoute cependant les conséquences de cette situation, notamment pour les élèves scolarisés à Goma, les travailleurs transfrontaliers, ainsi que pour l'ensemble des échanges socio-économiques entre les deux villes qui risquent d'être sérieusement perturbés.
Et clôturons cette page de la santé avec cette célébration ce dimanche de la Journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle. À Matadi, au Congo central, la montée des cas de maladies liées à la tension artérielle chez les enfants est de plus en plus signalée. Longtemps considérée comme une maladie d'adulte, l'hypertension touche désormais aussi les plus jeunes. Mauvaise alimentation, manque d'activité physique, stress. Les spécialistes tirent la sonnette d'alarme face à ces tueurs silencieux. Parents, écoles, les professionnels de santé sont appelés à redoubler d'efforts pour protéger les enfants. Avec vous, Élise Kavira, quels signes peuvent alerter?
Maux de tête répétés, fatigue inhabituelle, essoufflement ou encore difficulté de concentration, chez l'enfant, ces signes peuvent révéler une hausse ou une baisse des tensions selon les médecins. C'est le cas de Frazi Vangu. Aujourd'hui âgée de 29 ans, elle raconte avoir fait sa première crise d'hypotension à seulement 9 ans.
Je me sentais juste très fatiguée. Il m'arrivait vraiment de me sentir très essoufflée après quelques pas. Au début, on s'était dit certainement que c'était un début de malaria. Je suis allée à l'hôpital. On prélève la tension, j'étais à 6. Le médecin m'a regardé, il m'a conseillé d'apprendre à extérioriser quand j'ai un problème que j'en parle.
Au-delà du stress, les médecins pointent plusieurs facteurs de risque. Parmi eux, la sédentarité de plus en plus fréquente chez les enfants. Le docteur Georges Baka s'inquiète.
La technologie nous a amené beaucoup d'avantages, mais également des inconvénients. La sédentarité, vous voyez aujourd'hui des enfants passer plusieurs heures devant la télé, c'est vraiment inquiétant, nous devons le signaler, parce que de plus en plus il y a des cas d'hypertension artérielle en pédiatrie.
Pour limiter les risques, les spécialistes recommandent des gestes simples. Surveiller régulièrement la tension, adopter une alimentation saine, faire du sport et surtout réduire le temps passé devant les écrans. Matadi, Elise Kavira, Radio Kapi.
Le ministère de l'Éducation nationale vient de poser les bases de l'intégration du narratif génocide dans les programmes de l'enseignement primaire et secondaire en République démocratique du Congo. Il apprête un guide national de formation et élabore des outils pédagogiques adaptés. Cette réforme bénéficie de l'appui technique et financier de la Commission interinstitutionnelle d'aide et d'appui aux victimes, ainsi que du Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit. Les explications avec Blaise Ndongala Mayanda.
Cette réforme s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale d'éducation à la mémoire, à la citoyenneté et au patriotisme. À ce stade, l'initiative vise notamment à renforcer les capacités des inspecteurs, considérés comme les principaux relais des diffusions pédagogiques à travers les pays. Les conseillers en charge de la citoyenneté et de l'inclusion au ministère de l'Éducation nationale expliquent que le narratif génocide sera intégré de manière transversale dans plusieurs disciplines.
Ça, le travail pédagogique justement d'intégrer cela dans différentes matières, différentes branches, que ce soit un thème transversal, mais avec des volumes différents selon qu'on est d'un âge à l'autre.
La CIAVAR a pour sa part réaffirmé son engagement à accompagner techniquement, scientifiquement et institutionnellement la mise en œuvre de cette stratégie nationale d'appropriation du génocide. De son côté, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale a indiqué que ces programmes visent à renforcer le sentiment d'unité nationale, condition essentielle du développement. Raïssa Malou.
Il vous revient d'accompagner les enseignants, de former les élèves et d'animer les clubs de veille citoyenne afin de transformer la mémoire collective en un levier d'unité et non de division.
À travers ces projets, le ministère de l'Éducation nationale réaffirme son engagement à promouvoir une éducation fondée sur la mémoire collective, la citoyenneté responsable, le patriotisme et la cohésion nationale.
Et puis, clôture vendredi dernier des épreuves de la hors-session dans les deux provinces éducationnelles du Maniema. D'après le ministre provincial de l'Éducation, ces épreuves se sont déroulées sans incident majeur. Toutefois, Mera Marungu interpelle la conscience des élèves finalistes car la session ordinaire pointe à l'horizon. Il les invite à plus de concentration afin de permettre à la province de réaliser des bons résultats. On écoute Mera Marungu au micro de Florence Kizalunga.
Les examens se sont bien sûr clôturés dès la hors session, c'est-à-dire c'était très bien passé dans toutes les deux provinces éducationnelles, Maniema 1 et Maniema 2. Au Maniema 1, il n'y a pas eu d'incident. Au Maniema 2 aussi, avec le rapport en notre possession, il n'y a pas eu d'incident. Donc ça s'est très bien clôturé. Ce que nous demandons aux enfants, aux élèves, ce n'est que les débits. Ça, c'est la hors session. Et il y a aussi la session ordinaire qui se pointe déjà au mois de juin. Les enfants ne peuvent que se concentrer davantage parce que il faut pas qu'ils soient distraits que, donc, comme nous venons de passer la dissertation, c'est fini pour nous. Or, il y a la grande session qui demande une très bonne concentration de la part des enfants eux-mêmes. Je demande aux enfants de se préparer, de prendre encore toutes les évaluations qui restent au grand sérieux pour que les résultats aux examens d'État 2025-2026 soient encore plus meilleurs que l'année passée. Il ne faut pas que les parents puissent rester aussi distraits pendant cette période. Il faut qu'ils soient à côté de nos enfants afin de les prodiguer des conseils pour se concentrer, afin de bien préparer les évaluations, surtout la grande session qui nous attend déjà.
Et poursuivons ce journal avec cette bonne nouvelle dans la province du Sankuru. Le pont Lokenye, situé sur l'axe Lodja-Beni, sur l'axe Lodja-Bena-Dibele, sous la route nationale numéro 7, a retrouvé sa solidité. L'office des routes a remplacé les écrous volés, une situation qui fragilisait dangereusement l'ouvrage. Les usagers saluent ces travaux. Explication avec Esther Ndalafina.
Depuis près d'une semaine, le pont Lokenye est de nouveau opérationnel et sécurisé. L'office des routes a procédé au remplacement des écrous dérobés il y a quelques mois par des inciviques, un acte qui avait affaibli la structure et exposé les usagers à de sérieux risques. Outre le remplacement des pièces manquantes, les équipes techniques ont également soudé quelques traverses du pont afin de renforcer sa résistance et garantir la continuité du trafic sur ce tronçon stratégique de la RN7. Ces travaux sont largement salués par les usagers qui y voient un soulagement pour leur déplacement quotidien et pour l'acheminement de marchandises. Il faut rappeler que le pont Lokenye constitue la principale voie d'entrée des marchandises à Lodja en provenance de Kinshasa via le port de Benadibele situé à plus ou moins 150 km. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Le député national Claude Missaré plaide pour la reprise des travaux de construction des postes frontaliers de Sangé, Nyamoma et Rubenga dans le territoire d'Ouvira au sud Kivu. Dans une correspondance adressée vendredi dernier au ministre du Commerce extérieur, Leli Douvira dénonce l'arrêt des travaux malgré les retraits des rebelles du M23 de la zone. Il rappelle que ces infrastructures s'inscrivent dans le cadre du projet de facilitation du commerce et intégration dans la région des Grands Lacs, financé notamment par la Banque mondiale. Claude Missare, haute micro de Grâce Amzati Massanzi.
J'ai été alerté par la population d'Ouvira qui s'attendait à la reprise immédiate des travaux de construction des postes frontaliers de Nyamoma et de Rubenga après le retrait du M23. Mais au moment où la population est dans la joie après le retrait du M23, au moment où nos compatriotes réfugiés au Burundi commencent à regagner les pays, nous apprenons avec amertume que la Banque mondiale vient de résilier le contrat de construction de des postes frontaliers seulement 2 jours après le retrait du M23. Pourtant, ces travaux étaient déjà financés à hauteur de 30% et ce projet devait permettre l'emploi de plus de 1800 personnes. Voilà pourquoi, en tant qu'élu du peuple et afin de comprendre les enjeux qui se cachent derrière cette décision très décevante, j'ai adressé une lettre de dénonciation à son Excellence Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur, tout en demandant, afin de soulager cette population victime de la guerre d'agression, la reprise urgente des travaux.
Nous n'avons pas encore réussi à joindre la Banque mondiale pour obtenir sa réaction sur ce dossier.
Actualité internationale.
La Somalie est entrée dans une période de transition, a annoncé le gouvernement vendredi, jour de la fin du mandat du président Hassan Sheikh Mohamud, à l'issue des réunions infructueuses avec l'opposition sous la tenue d'élections. Dans le même temps, des mandats des deux chambres du Parlement chargés d'élire un chef d'État sont aussi terminés depuis mars. Pour l'opposition, il est impensable que l'actuel président se maintienne, une situation qui risque de fragiliser ce pays.
L'invité.
L'invité de ce journal est le conseiller en charge de la citoyenneté et de l'inclusion au sein du ministère de l'Éducation nationale, Godefroy Talaboulou. Parle de l'intégration du narratif génocide dans les programmes de l'enseignement primaire et secondaire en République démocratique du Congo. Il explique qu'à ce stade, un guide national de formation ainsi que des outils pédagogiques adaptés sont en cours d'élaboration. Il s'entretient avec Blaise Nongala Mayanda.
Bonjour Monsieur Godefroy Talaboulou.
Bonjour Monsieur le journaliste.
Le ministère de l'Éducation nationale a pris l'option d'intégrer les génocostes dans l'enseignement primaire et secondaire. Quelle analyse faites-vous de cette approche?
Il s'agit ici de former les enfants à la mémoire collective, au patriotisme, à la défense du territoire national, mais aussi à la culture de la paix, à la tolérance, à la prévention de conflits. Et donc nous partons d'un fait historique pour amener les enfants à développer l'esprit critique et à défendre leur histoire et à éviter que les horreurs du passé ou les atrocités du passé puissent se répéter dans l'avenir.
Comment se fera cette initiation dans les écoles?
Nous allons les faire à travers les programmes scolaires, d'où l'atelier d'aujourd'hui qui a consisté à former un noyau formateur central sur le contenu ou les narratifs de génocide. Mais à côté des programmes scolaires, le thème étant transversal, nous allons aussi utiliser les clubs d'éveil citoyenne qui constituent un dispositif d'échange, de réflexion et d'action au sein des écoles. Ces clubs qui ont été créés par l'arrêté Son Excellence Madame la Ministre d'État et de l'Éducation nationale afin d'engager les élèves dans des réflexions, dans des actions qui promeuvent justement une nouvelle citoyenneté. Parmi ces actions, il y a la mémoire collective, il y a la mémoire historique, il y a le patriotisme, il y a le respect de bien commun, il y a la promotion de l'unité, la fraternité nationale et il y a le civisme.
Qui répondez-vous à certains Congolais qui estimaient intégrer ou créer tout un cours pour enseigner aux enfants les génocostes?
Que ce soit un cours, que ce soit un chapitre, le plus important pour nous c'est de développer, de former les enfants cette thématique. Et à chaque niveau, nous avons des compétences ou les profils de sortie attendus d'un élève et nous voulons justement nous assurer que les heures réservées à ces thématiques puissent aboutir au développement de ses compétences par l'élève. La matière étant sensible, nous devons développer des outils pédagogiques adaptés, mais aussi le volume d'heures adaptées aux différents âges, parce que le ministère s'occupe des enfants de 3 ans jusqu'à 18 ans. Donc c'est ça le travail pédagogique justement, d'intégrer cela dans différentes matières, différentes branches, et que ça soit un thème transversal, mais avec des volumes différents selon qu'on est d'un âge à l'autre.
Après le développement des outils pédagogiques, quelle sera la prochaine étape?
La prochaine étape, c'est justement de former les enseignants, de former les inspecteurs et d'écrire le contenu des curricula scolaires, mais aussi d'écrire les guides d'animation des clubs d'éveil citoyen, parce qu'on va aborder ces questions dans ces clubs avant de lancer dès l'année prochaine les activités proprement
dites. En marge de cette activité ou de cette initiative, avez-vous un message à lancer aux enfants, aux enseignants et aux inspecteurs de l'école primaire et secondaire?
Le message que je lance à toute la communauté, d'ailleurs à l'ensemble de la population congolaise et particulièrement les enseignants et les élèves, c'est que nous sommes entrés dans une nouvelle ère où l'école congolaise ne devient pas seulement un endroit où on transmet les connaissances ou les savoirs, c'est aussi un endroit où nous formons l'homme dans son intégralité. Nous formons la tête, nous formons le cœur, nous formons les mains, nous formons un nouveau type de Congolais, un nouveau type de Congolaises. La citoyenneté prend une place de choix. Parce que nous pensons qu'on peut beau développer des programmes économiques, si cet homme n'a pas l'amour de la patrie, n'a pas l'amour de son voisin, de son compatriote, n'a pas le sens du respect de bien commun, n'a pas l'amour, ne considère pas la promotion de l'unité et ne valorise pas la diversité qui nous caractérise, nous ne constituerons pas une nation forte à même d'assumer le rôle que nous avons d'amener l'Afrique vers un développement beaucoup plus assuré. Donc nous voulons, comme la Mineta le veut bien, à l'horizon 2029, que notre système éducatif revêt d'un caractère reconnu internationalement et puisse être un système d'excellence en Afrique qui traîne les autres vers le développement attendu.
Monsieur Godfrey Talaboulou, nous vous disons merci.
Merci, monsieur le journaliste.
Et c'était notre invité, le conseiller en charge de la citoyenneté et de l'inclusion au sein du ministère de l'Éducation nationale. Godfrey Talaboulou s'entretenait avec Blaise Ndongala Mayanda. Ce journal est à présent terminé. Il a été préparé par Jude Mister Bilandan Kumar, Jean-Claude Siala sur la technique et Jean-Désiré Kanyama vous l'a présenté. Infiniment merci à vous de l'avoir écouté.